Oui, Monseigneur Guy de Kerimel, bonjour.
Bonjour.
Le pape François vous a nommé le 9 décembre dernier archevêque métropolitain de Toulouse. Vous prenez donc la suite de Monseigneur Robert Le Gall, dont le Saint-Père a accepté la remise de sa charge pastorale pour raison d'âge. Vous étiez jusqu'à présent évêque de Grenoble et Vienne. Vous quittez donc la proximité des Alpes pour celle des Pyrénées, le Cisampe pour le vent d'Otan, vous allez voir, c'est sympathique, la culture des noix pour celle des céréales. Quelle première impression ressentez-vous en foulant le sol de cette terre du Sud-Ouest ?
Alors, elle ne m'était pas totalement inconnue, mais en même temps, je ne connais rien du diocèse de Toulouse. J'ai un frère qui s'est marié à Toulouse, quand même, voilà. Donc, je sais que Toulouse est d'abord une belle ville, la ville rose, ce qui va m'aider à voir la vie en rose, c'est formidable. Et une ville riche d'histoire et de culture. Et donc, j'ai arpenté hier après-midi avec Mgr Le Gall les rues du centre-ville. Nous sommes allés à la cathédrale, nous sommes allés à Saint-Cernin. Et donc, oui, c'est une très belle ville et une présence, enfin, avec de très belles églises et une présence de ces églises en, voilà, dans, très, très importante. À Grenoble, c'est d'une certaine manière beaucoup plus modeste. D'abord, Grenoble a été longtemps une très petite ville qui a grossi à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Et donc, c'est beaucoup plus modeste. Et donc, voilà. En même temps, je sais qu'il y a toute une partie rurale et une partie de montagne et que j'aurai à découvrir. Je ne connais pas Saint-Bertrand-de-Comminges, évidemment réputé, mais je ne connais pas encore. Voilà. Alors, j'y ai un tout petit peu de famille dans le diocèse. J'ai un neveu à Toulouse, une cousine aussi, et puis un neveu dans le Volvestre aussi.
Donc vous n'arrivez pas totalement en terre inconnue.
Voilà.
Oui. Alors nous allons faire un peu plus connaissance, Monseigneur. Vous avez été ordonné prêtre il y a 35 ans pour le diocèse d'Aix et Arles. Vous avez cheminé au sein de la communauté de l'Emmanuel. Qu'est-ce que cette communauté du renouveau charismatique vous a apporté ?
Dans une époque difficile, dans les années 70, où tout était remis en question, la communauté a été pour moi un point de repère précieux, où j'ai retrouvé des hommes et des femmes qui aimaient l'Église, qui aimaient Jésus-Christ, qui aimaient l'Eucharistie, qui aimaient la Vierge Marie. Et donc, ça a été un lieu de cheminement important pour moi et un lieu qui a permis à ma vocation d'éclore, certainement. Alors, Je n'ai pas reçu ma vocation de la communauté d'une certaine manière, mais la communauté m'a permis d'entendre l'appel de Dieu et d'y répondre. Et parce que j'avais une certitude à 20 ans, je ne serais pas prêtre.
Allons bon.
et donc, voilà, le Seigneur a mis beaucoup de temps et a été très patient pour me faire accepter ma vocation, ce que j'ai jamais regretté, évidemment, profondément.
Alors, vous avez été vicaire à Aix-en-Provence, puis curé dans la région aixoise. Vous avez été ensuite nommé évêque auxiliaire à Nice de 2001 à 2004. Et puis, vous êtes arrivé à Grenoble et donc êtes à la tête du diocèse de Grenoble-Vienne depuis plus de 15 ans. De quelle manière les fidèles vous ont-ils fait progresser dans votre ministère ?
C'est sûr qu'ils m'ont fait grandir. À Grenoble, ce qui est un peu vrai partout en France maintenant, mais particulièrement à Grenoble, l'argument d'autorité ne fonctionne pas. Donc, vous êtes obligé de réfléchir et de poser vraiment les choses plus profondément. Vous êtes obligé de vous remettre en question dans la manière dont vous voulez gouverner, etc. Donc, il faut beaucoup écouter, beaucoup se remettre en question et en même temps avancer. Donc, c'est un diocèse voilà, où il y a de la créativité, de l'innovation. Et quand je pense à ce que disait le pape François dans sa première exhortation apostolique, où l'évêque doit être devant, au milieu du peuple et derrière, et donc j'ai eu effectivement l'impression de donner une direction, mais j'ai essayé en tout cas de marcher avec, et parfois j'ai couru derrière.
Vous avez exercé une partie de votre ministère au séminaire d'Aix-en-Provence. Vous le savez, nous avons aussi un grand séminaire à Toulouse. À l'heure où la formation des futurs prêtres est pointée du doigt, notamment tout récemment à travers le rapport Sauvé, quelles préconisations feriez-vous pour la formation des séminaristes de la province de Toulouse ?
Alors, mon souci, c'est que ces jeunes qui sont dans l'appel de Dieu et qui s'engagent au séminaire soient profondément vrais. Ma question aussi, c'est comment le peuple de Dieu est impliqué, comment la communauté chrétienne est impliquée dans la formation des futurs prêtres. Et ça, c'est une grande question. Je n'ai pas toujours des réponses aujourd'hui. J'avais réfléchi un petit peu avec des jeunes prêtres de Grenoble sur ces questions. Et il me semble que nous avons encore des mutations à vivre dans cette formation. Les futurs prêtres ont besoin en même temps d'un temps à part, d'une certaine manière, de s'enraciner profondément dans le Christ, mais en même temps d'être toujours au sein de la communauté chrétienne. Et donc cette articulation, elle est encore à ajuster, il me semble, à creuser. Et voilà, en tout cas, c'est une question qui me fait réfléchir beaucoup. Comme j'étais effectivement dans une équipe de séminaire, ça m'interpelle. Et alors, il faut pas se tromper en même temps. Il ne faut pas tout mettre par terre sous prétexte d'innover, mais parce que ça déstabiliserait profondément, puis ce ne serait pas juste. Il faut vraiment chercher ce que le Seigneur veut pour aujourd'hui. Et donc, là aussi, partager, réfléchir. Entre évêques aussi, on a commencé, plusieurs évêques aussi commencent à réfléchir dans ce sens-là. Comment avancer, comment ajuster la formation pour aujourd'hui.
Alors, au sein de la Conférence des évêques de France, vous présidez la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Vous êtes récemment intervenu à la suite du motu proprio Traditionis Custodes. Quel message souhaitez-vous transmettre aux fidèles du diocèse de Toulouse à propos de la messe tridentine, sans rentrer évidemment dans tous les détails, mais peut-être pour poser les bases.
C'est-à-dire que ce qu'il me semble, c'est qu'on focalise très vite. Parce que aussi nous sommes dans une période d'insécurité, donc on a besoin de sécurité, on a besoin de points de repère, mais parfois on focalise sur une période ou une manière de célébrer qui a beaucoup évolué. La messe dite de Saint-Pie V a énormément évolué. Et rien qu'un prêtre du diocèse de Grenoble me faisait remarquer, j'ai pas en mémoire, mais entre 1950 déjà et 1967, il y a eu énormément de réformes du missel dit de Saint-Pie V. Et donc, je crois qu'il faut... derrière, il y a la manière de célébrer, il y a la dimension du sacré. M'est arrivé quand même à Grenoble, au moins au début, de poser cette question invraisemblable à des équipes liturgiques. Quelle place faites-vous à Dieu dans vos liturgies? Et c'est un point, vous voyez, que, alors évidemment, la célébration, la messe de Saint-Pie V donne toute sa place à Dieu. Et quelquefois, dans la manière de célébrer la messe de Paul VI, eh bien, parfois, j'ai eu l'impression, moi, que c'était de l'auto-célébration. Donc, j'ai essayé à Grenoble de redonner, de retrouver du silence liturgique, de retrouver une manière de célébrer qui ne soit pas guindée, mais qui soit intérieure, qui permette une vraie intériorité.
Vous avez confié une église du centre-ville de Grenoble à des jeunes étudiants et des jeunes professionnels. À Toulouse, vous le savez aussi, puisque vous avez déjà bien enquêté sur ce nouveau diocèse qui vous est confié. Une dynamique paroisse étudiante existe depuis 15 ans maintenant. Dans cette continuité, certains y verront peut-être un clin d'œil de Dieu, un clin d'œil, comme on dit. Quelle est pour vous la place des jeunes dans l'église et dans notre église locale ?
Très importante, surtout que, si vous voulez, moi j'ai encore connu une église de chrétienté. Les jeunes sont nés dans un monde païen, d'une certaine manière, en tout cas un monde fortement sécularisé, et donc sont plus à même de s'adapter à ce monde-là et de vivre leur foi dans un monde sécularisé. Et pour moi, donc, je dois les écouter, je dois les accompagner parce qu'ils vont nous aider. Ils tirent l'Église aussi, et ils vont nous aider à nous adapter toujours plus à ce monde tel qu'il est. Et donc, vous nous aider à façonner ce nouveau visage d'Église. J'ai parlé à Grenoble parfois de refondation, non pas refondation de l'Église, bien sûr, mais refonder notre manière d'être Église dans le monde aujourd'hui.
Alors, puisque vous parlez justement de nouvelles manières d'être Église aujourd'hui, ça me fait rebondir sur cette démarche synodale dans laquelle les diocèses sont entrés, le synode pour la synodalité, c'est un bien grand mot. Quels conseils vous donneriez aux fidèles et notamment à ceux que vous allez rejoindre dans le diocèse de Toulouse afin qu'ils entrent pleinement dans cette démarche de réforme?
Eh bien, nous avons donc un devoir d'abord de conversion, tous, particulièrement en ce moment, je pense, le Seigneur nous appelle à une conversion personnelle et communautaire, et donc à écouter Dieu profondément, et c'est en nous écoutant les uns les autres que nous pouvons mieux discerner ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, et comment avancer en Église. Le Seigneur n'a pas envoyé simplement les prêtres ou les consacrés en mission, il a envoyé toute la communauté chrétienne en mission. Et donc comment nous sommes missionnaires dans le monde d'aujourd'hui? Voilà, c'est la grande question que nous avons à réfléchir ensemble.
Vous serez donc installé le dimanche 30 janvier à 14h30 lors de la messe qui sera célébrée à la cathédrale Saint-Étienne. Quel appel vous souhaiteriez lancer aux fidèles, prêtres, laïcs, consacrés, qui sont et diacres aussi pour ne pas les oublier de ce diocèse?
Une confiance dans le Seigneur qui conduit son Église. Je les invite vraiment. Je les invite à la confiance. Et puis, garder l'enthousiasme de la foi, l'enthousiasme du témoignage. Il me semble très important aujourd'hui d'aller au-devant des hommes et des femmes de notre temps, d'oser rencontrer, d'oser écouter, d'oser témoigner de notre foi. Parce que beaucoup de gens cherchent le sens de leur vie aujourd'hui, c'est impressionnant. Je suis très impressionné par cela. Et beaucoup de gens, quel que soit leur milieu, sont en attente de quelque chose. Beaucoup sont très inquiets par rapport à l'avenir de notre société, du monde, etc. Et donc, je pense qu'il est temps pour nous, les chrétiens, de témoigner de l'espérance et d'aller au-devant des hommes et des femmes de notre temps.
Monseigneur, vous aurez cependant une charge plus importante que celle que vous exerciez dans le diocèse de Grenoble-Vienne, puisque vous devenez archevêque métropolitain de la province de Toulouse. Comment envisagez-vous votre rôle vis-à-vis de vos frères évêques?
Bien, de nous rencontrer fraternellement déjà, de nous écouter, puis de nous soutenir. Ce que je perçois, c'est que Toulouse est une énorme métropole et un diocèse qui a des ressources. Beaucoup des diocèses de la province sont plus modestes, sont des petits diocèses. Et donc, nous avons certainement à travailler, à mutualiser nos forces et à nous soutenir mutuellement. Monseigneur Le Gall me disait que les rencontres étaient très fraternelles. À Lyon aussi, la province de Lyon, et nous avons plaisir à nous retrouver et à nous soutenir mutuellement. Et donc, voilà, j'espère que nous pourrons réaliser cela ici. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Je connais, bien sûr, on se connaît entre évêques, alors oui. Plus ou moins, évidemment, suivant qu'on est proche dans l'Assemblée, suivant qu'on participe aux mêmes commissions, mais donc je suis en toute confiance avec ces frères évêques. Oui.
Votre devise épiscopale, et ce sera ma dernière question, elle est tirée de l'évangile de Saint Jean, « Demeurez en mon amour ». Qu'est-ce que cette exhortation du Christ vous évoque?
Une stabilité profonde dans le cœur de Dieu. C'est le seul lieu, d'ailleurs, dans ce monde ici-bas où tout passe, où tout bouge, où nous pouvons avoir un lieu profond de stabilité, d'une part. En même temps, ce cœur est un cœur brûlant d'amour, un cœur de feu, et qui nous pousse vers les autres et qui nous invite à nous donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, c'est toute cette logique, si vous voulez. Mais j'ai toujours été très marqué par ce chapitre 15 de Saint Jean et ce verbe « demeurer » qui parcourt ce chapitre. Et parce que l'être humain a besoin d'un lieu, d'une stabilité profonde et une stabilité intérieure. Et c'est là que je trouve ma stabilité. Oui.
Merci beaucoup, Monseigneur Guy de Kerimel, d'être passé dans les studios de Radio Présence et bienvenue à l'occasion de votre première visite à Toulouse.
Merci à vous.